D'où vient notre pratique? Ne vous pressez pas de répondre. Prenez le temps de bien entendre la question. Nous avons tout notre temps. D'où vient-il que vous soyez ici aujourd'hui dans ce zendo? Certains parmi nous y viennent depuis des années. Malgré l'aridité et l'austérité du zazen, d'où vient-il que nous revenions sans cesse? D'où vient notre pratique? Cette question traverse toute l'histoire du zen. Dans le koan 37 du mouvement de Khan, la collection de 48 koans compilés en Chine au 13e siècle par le maître Mumon, un moine demanda à Joshu: quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Joshu répondit: le chêne dans le jardin. Dans le koan 17 du recueil de la falaise bleue, une collection de 100 koans, compilé par le maître Zen Secho au 12e siècle, un moine demanda à maître Kyorin: Bodhidharma est arrivé de l'Ouest. Quel est le sens de sa venue en Chine? Et maître Kyorin répondit: s'asseoir longtemps, se sentir fatigué. Dans le koan 65 du Shumon Katoshu, une collection de koans compilés au Japon au 17e siècle et mieux connue en Occident sous le titre « Entangling Vines ». Un moine appelé Ouiji demanda à son maître: « quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? » Le maître répondit: « imaginons qu'un homme soit tombé dans un puits très profond. Si tu peux le sortir de ce puits sans utiliser une corde, je te dirai pourquoi Bodhidharma est venu de l'Ouest. » Ouiji dit alors: mais dans la ville de Yunnan, il y a un prêtre nommé Chang qui explique toutes sortes de choses aux gens. Le maître appela un jeune novice et lui dit: sortez ce corps d'ici. Un peu plus tard, Ouiji demanda à quelqu'un d'autre: comment pourrait-on sortir l'homme de ce puits? Et on lui répondit: tu n'es qu'une cruche, une tête de linotte. Où y a-t-il donc un homme dans un puits? Ouiji ne comprit pas et posa un peu plus tard la même question à un autre maître qui lui dit aussitôt: Ouiji. Ouiji répondit: oui, maître. Voilà, l'homme est sorti du puits, rétorqua le maître. Trois koans différents, qui posent pourtant une seule question. Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Il s'agit là de ce que l'on appelle dans le Zen une question ritualisée, c'est-à-dire une question forgée par la tradition et qui, derrière la manière dont elle est posée, cache d'autres questions. Dans son livre « Je ne suis pas un être humain », dans lequel il présente et commente les 48 koans du mouvement de Khan, M. Lo écrit ce qui suit au sujet de cette question, et je cite: « Très souvent, dans un mondo ou un koan zen, la question est ritualisée. Qu'est-ce que le Bouddha ou quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? La vie nous déroute souvent complètement. Quelqu'un meurt ou nous quitte, une maladie grave nous atteint, ou c'est la perte d'un emploi. Il y a, profondément enfoui dans cet accablement, une question. Mais comment la poser? On balbutie quelque chose comme: quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je né? Qui suis-je? Qu'est-ce que la mort? Mais elles sont toutes éloignées de ce dont il s'agit réellement. » Fin de citation. C'est comme s'il y avait au cœur de notre vie même une question inarticulée, une question à laquelle nous n'arrivons pas à donner forme, mais qui continue pourtant à nous bouleverser dès qu'on s'en approche. Elle ne nous laisse pas en paix. Et elle s'impose à nous surtout dans ces périodes de nos vies où tout semble basculer, ces périodes de confusion où l'on se sent perdu, accablé, où, semble-t-il, rien ne fait sens. On n'arrive pas à poser cette question. Et pourtant, elle reste là, comme si elle attendait quelque chose de nous. Cette question qui reste silencieuse et nous échappe, quels que soient les mots que l'on utilise pour la formuler, apparaît souvent dans le zen sous la forme d'une interrogation quant au sens de la pratique. Et elle apparaît surtout lorsqu'on ne sait plus pourquoi on pratique le zen. Que signifie le travail spirituel? Pourquoi est-ce que je pratique? À quoi tout cela sert-il? Dans les trois koans présentés en ouverture, lorsque les moines posent la question « Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? » c'est cette question qu'ils posent. Ils cherchent l'essence du zen. Qu'est-ce qui est au cœur de notre pratique? Et Joshua a répondu, le chêne dans le jardin. Kyorin, de son côté, a simplement dit, s'asseoir longtemps, se sentir fatigué. Et le maître du moine Ouija a répondu, imaginons qu'un homme soit tombé dans un puits très profond. Si tu peux le sortir de ce puits sans utiliser une corde, je te dirai pourquoi Bodhidharma est venu de l'Ouest. Trois réponses très différentes l'une de l'autre. Elles paraissent obscures, et pourtant, elles sont lumineuses. Mais avant d'aller plus loin, parlons un peu de Bodhidharma. Le maître indien Bodhidharma est arrivé en Chine au VIe siècle. Il était le 28e successeur dans la lignée de Gautama Bouddha et devint le premier patriarche du Zen chinois. La légende raconte qu'après avoir rencontré le maître Anyatara, le 27e successeur indien du Bouddha, Bodhidharma quitta sa famille et le palais de son père pour étudier le bouddhisme auprès de lui. Anyatara lui fit promettre qu'un jour, il quitterait l'Inde pour la Chine, afin d'y propager la tradition du zen. Après la mort de son maître, Bodhidharma entreprit donc un jour le long voyage vers la Chine. L'on raconte qu'il était alors âgé de plus de 100 ans. Dès son arrivée, il eut un entretien avec l'empereur Wu, et leur échange fait l'objet du premier koan de l'Ikigan Roku. Bodhidharma voyagea ensuite vers le nord de la Chine, et il s'établit à Shaolin, où il médita face au mur dans une grotte pendant 9 longues années. C'est là qu'il rencontra un jour son disciple Wike, celui qui allait lui succéder et devenir le second patriarche du Zen en Chine. Leur rencontre est racontée dans le koan 41 du Momonkan, et encore aujourd'hui, la lecture en reste très émouvante. Bodhidharma était assis face à un mur. Le deuxième patriarche, s'étant coupé un bras, se tenait debout dans la neige. Il lui déclara, l'esprit de votre disciple n'est pas encore en paix. Maître, je vous supplie de l'apaiser. Bodhidharma lui dit, amène ton esprit et je l'apaiserai pour toi. Le patriarche répondit, j'ai cherché mon esprit, mais je n'ai pu le trouver nulle part. Bodhidharma dit alors, voilà. Je l'ai apaisé pour toi. Pourquoi pratique-t-on? Ou comme cela est souvent dit dans les koans, Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Au moment où Bodhidharma arrive en Chine, le bouddhisme y est déjà établi depuis plus d'un siècle. Les principaux sutras bouddhistes ont déjà été traduits, des monastères ont été construits. À cette époque, le bouddhisme chinois reste académique. De savants érudits chinois discutent de points de doctrine, soupèsent les différences subtiles entre le taoïsme chinois et le bouddhisme indien. Ils auscultent les sutras, dissèquent le sens des rituels. Bodhidharma apportait-il donc quelque chose de nouveau? Une nouvelle doctrine ou des sutras jusque-là inconnus? Allait-il proposer ou enseigner de nouvelles pratiques, ce qui aurait justifié son long voyage? Bodhidharma ne fit qu'une chose, s'asseoir en méditation devant le mur d'une grotte. Était-ce là ce que Wiki venait chercher auprès de lui? Ce pourquoi il se tenait dans la neige? Et c'était, selon la légende, couper le bras. Jusque-là, Wiki avait eu la réputation d'être un érudit chinois, qui, après avoir étudié les principales philosophies de son époque, s'en était détourné pour devenir moine bouddhiste. Mais comme le dit le Koan, son esprit n'était pas en paix. Au fond d'une forêt sans doute obscure, debout dans le froid et la neige, devant la grotte où Bodhidharma poursuivait sa méditation, Wiki n'avait plus que son propre égarement à offrir à son maître. Très longtemps, Bodhidharma ignora toutes ses demandes et ne lui prêta aucune attention. Wiki revenait jour après jour, sans relâche. Mais Bodhidharma continuait simplement à méditer devant le mur, en ignorant sa présence. Il lui dit un jour, « Comment un homme comme toi, rempli de vanité et si peu sincère, peut-il espérer accomplir le dur travail qui doit être fait sur la voie? Ce ne serait que du travail stérile et du temps perdu. » Wiki s'était dépouillé de son érudition, de toutes les connaissances qu'il avait acquises. Il avait laissé derrière lui toutes ses prétentions, et avec humilité, il avoua à celui qui allait devenir son maître que son esprit n'était pas en paix. Il n'avait rien d'autre à offrir que cet esprit tourmenté, et il suppliait Bodhidharma de l'apaiser. Que pouvait-il donner d'autre? Désespéré de ne pouvoir prouver sa sincérité, il se coupa le bras. Bodhidharma cessa de méditer. Profondément ému, il reconnut la détermination sincère de son disciple. Il lui demanda seulement de lui amener son esprit afin qu'il l'apaise. Combien de temps, de semaines, de mois ou d'années, et combien de désespérance fallut-il avant que Wiki en arrive enfin à dire « J'ai cherché mon esprit partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. » Posez-vous ici la question. Que croyez-vous qu'un maître, un enseignant ou une enseignante zen puisse donner ou transmettre? Une doctrine quelconque, une vérité absolue, des consolations ou des conseils pour éviter la souffrance? Bodhidharma pouvait-il donner quoi que ce soit à Wiki? Yasutani Roshi, que M. Lo considérait comme son premier maître dans le Zen, disait que si Bodhidharma avait apporté quoi que ce soit avec lui lors de son voyage en Chine, il n'aurait pas valu un sou. Pourquoi disait-il cela? Lorsque j'animais les ateliers d'introduction au Centre Zen de Montréal après le décès de M. Lo, Je demandais toujours à ceux et celles qui y participaient pourquoi ils s'étaient inscrits à l'atelier et ce qu'ils attendaient du zen. Personne, évidemment, ne disait « J'aimerais surtout savoir quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma. » Non. Certains qui souvent avaient expérimenté d'autres pratiques, telles que le yoga ou d'autres formes de méditation, disaient simplement être curieux face à cette pratique spirituelle. Ils voulaient en savoir plus afin de décider si le zen pouvait leur convenir. D'autres participants espéraient que le zen pourrait les aider à se sentir plus heureux et plus sereins dans leur vie quotidienne, les aider à s'épanouir et rendre leur vie plus simple. Il y en avait d'autres qui disaient se sentir stressés et anxieux au travail. Ils espéraient que la méditation puisse les aider à se sentir plus calme. Certains, encore ébranlés suite à des situations difficiles dans leur vie, espéraient que le zen allait les aider à retrouver un certain équilibre. D'autres évoquaient même l'éveil, dont parlaient parfois certains livres zen, et se demandaient comment l'atteindre. Lorsqu'on demande aux gens pourquoi ils pratiquent le zen, ils répondent souvent de cette façon. Ils souhaitent atteindre quelque chose. Quelque chose qui, disent-ils, leur manque actuellement. Quelque chose qui viendra résoudre ou à tout le moins amoindrir leurs problèmes. Quelque chose comme l'éveil peut-être ou une expérience spirituelle qui leur permettra un plus grand détachement face à ce qui se passe dans leur propre vie. Lorsque l'on commence à pratiquer, on le fait avec l'espoir de trouver quelque chose, surtout dans les premiers temps. C'est-à-dire pendant plusieurs années pour la plupart d'entre nous. Nous voulons que la pratique nous aide, qu'elle nous serve, qu'elle nous soit utile. Mais que peut nous donner la pratique du zen? Qu'a-t-elle à offrir? Bodhidharma n'a rien apporté avec lui. Il a quitté l'Inde au VIe siècle et est arrivé en Chine, les mains vides. Que pouvait-il donner à son disciple? Toute l'histoire du zen commence là. Et depuis, tous les maîtres zen, qu'ils soient de Chine, du Japon, de la Corée ou de l'Amérique, n'ont rien reçu de leur propre maître et n'ont rien transmis à aucun de leurs élèves. Une transmission spéciale, en dehors des Écritures. Aucune dépendance vis-à-vis des mots et des lettres. Se tourner directement vers le seul esprit. Contempler sa propre nature. Voilà comment Bodhidharma lui-même en parle. Lorsque nous arrivons au zen, bardés de toutes nos attentes et de tous nos espoirs, nous sommes à des années-lumière du zen. Ce n'est pas que nous ne soyons pas sincères. Nous sommes simplement désorientés. Nous voulons aller vers le sud, alors même que nous avançons vers le nord. Et nous l'ignorons. D'où vient notre pratique? Non pas « qu'est-ce que j'en attends? » mais seulement « d'où vient-elle? » Dans l'un de ses textes, M. Lo a déjà écrit « Nous pratiquons le zen, mais tout compte fait, nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître. » Mais nous ne le savons pas encore. Nous croyons que nous devons faire quelque chose. Nous nous engageons alors dans toutes sortes de disciplines qui sont autant d'impasses. Comme Wiki, nous voulons apaiser notre esprit et nous cherchons cet esprit partout sans jamais le trouver. Plus nous le cherchons, plus notre esprit lui-même est agité. M. Lo a écrit quelque part que vous ne le trouverez jamais si vous le cherchez. Mais si vous ne le cherchez pas, quel espoir vous reste-t-il? Si vous ne le cherchez pas, comment verrez-vous jamais qu'il ne peut être trouvé nulle part? Vous ne pourrez jamais épuiser l'avidité de votre propre esprit, et vous continuerez à tourner en rond, passant d'une raison ou d'une façon de pratiquer à une autre, découragé et humilié de ne jamais trouver de réponse définitive. Et cela est très bien. C'est le chemin à suivre. Il nous faut simplement être honnêtes avec nous-mêmes et surtout persévérer, même si c'est dans l'obscurité. Comme l'écrit Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême selon la pensée zen », et je cite, « L'homme qu'on dit d'habitude désespéré n'est justement pas désespéré. Il est rempli d'espoir, auquel le monde oppose une fin de non-recevoir. Aussi est-il fort malheureux. L'homme qui est parvenu à être réellement désespéré, c'est-à-dire à ne plus rien attendre du monde des phénomènes, est inondé par la joie à laquelle il cesse enfin de s'opposer. » Fin de citation. D'où vient-il que nous pratiquions? Quel est le sens de la venue en Chine de Bodhidharma? Joshua a répondu, le chêne dans le jardin. Maître Kiorin a simplement dit, s'asseoir longtemps, se sentir fatigué. Et le maître du moine Ouija a fait une promesse. Imaginons qu'un homme soit tombé dans un puits très profond. Si tu peux le sortir de ce puits sans utiliser une corde, je te dirai pourquoi Bodhidharma est venu de l'ouest.